Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Babette Etienne, elle a été la femme la plus discrète de Johnny. Elle raconte tout aujourd'hui dans un livre. Savez-vous où elle l'a rencontré ? Dans une discothèque. Et où l'a-t-il demandé en mariage ? Dans sa loge, devant ses copains, après un concert. Et pourquoi se sont-ils mariés à Las Vegas plutôt qu'à Neuilly ? Pour ne pas gâcher la promo de Sylvie au Palais des Sports. Ses souvenirs, ainsi que beaucoup d'autres, tout de suite dans Les Clés d'une Vie sur Sud Radio. Bonjour Babette.
Bonjour Jacques.
Alors c'est vrai que ce livre, Je me souviens de nous, qui paraît chez HarperCollins, raconte votre histoire d'amour avec Johnny, dont on avait peu parlé d'ailleurs, parce qu'il y en a eu tellement que la vôtre est restée un peu secrète. Et vous le racontez dans ce livre, et on va évoquer ce livre et cette histoire d'amour, et Johnny bien sûr, à travers des dates, si vous êtes d'accord bien sûr.
Okay.
Alors la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, c'est le 28 janvier 1977, ce sont les 90 ans d'Arthur Rubinstein, et il les fête à l'Élysée Matignon dont il est le parrain, et c'est la première grande manifestation en dehors des défilés de mode à l'Élysée Matignon. L'Élysée Matignon, bon, c'est un lieu mythique à l'époque, il a 90 ans, Rubinstein, c'est un des plus grands pianistes du monde, il est venu de chez lui, il habite juste à côté de chez Pagnol, et quand on lui disait après un concert « Vous avez joué comme un dieu, maître », il répondait « Oui, mais Dieu ne joue pas au piano. » Alors, l'Élysée Matignon, vous y êtes allé un soir, vous ne connaissiez pas, et ça a changé votre vie, Babette.
Complètement. En descendant cet escalier qui nous menait donc à cet endroit un peu magique.
Alors, il faut préciser que c'était une discothèque aux Champs-Élysées, avenue de Matignon. Il y avait le restaurant au-dessus et la discothèque en dessous.
Et discothèque en dessous. Et vous vous souvenez, le restaurant où tout le monde venait dîner après le spectacle, parce que finalement, c'est un endroit où il y avait énormément du monde du spectacle.
On appelait ça le bureau, d'ailleurs.
Exactement.
Où l'Élysée m'a-tu vu.
Un peu des deux, tout à fait. Mais on avait beaucoup de plaisir à retrouver les uns et les autres. Alors là où vous vous souvenez, il y avait un piano qui sortait du sol et puis tout le monde venait faire un bœuf vers tard dans la nuit. Et ensuite, on allait chez Picolette manger un petit aller-retour. C'était le petit restaurant dans la nuit. Et puis, évidemment, la discothèque où là, évidemment, je rencontre Johnny Hallyday.
Et puis, un soir, vous allez avec un copain, Coco, qui est un garçon qui travaille dans les coulisses de la télévision, et vous découvrez cet endroit.
Tout à fait, je découvre cet endroit, je suis complètement émerveillée par tout ce qui se passe, des personnes, tout le monde est beau, tout le monde est souriant, tout le monde est gay, tout le monde est assez, on va dire, formidable, et je suis plutôt tournée vers tout ce qui se passe que plutôt vers la personne qu'on veut me présenter. Et là, on me dit, j'ai quelqu'un à te présenter, viens deux minutes, et on me présente donc Johnny.
Et comme ça, il voulait vous voir ou ça s'est fait comment ?
Écoutez, ça s'est fait que voilà, il voulait absolument me présenter à Johnny parce que finalement, on devait s'asseoir avec lui à sa table. Donc, oui. C'était un peu normal que l'on me présente. Après, c'était pas préparé tout ça. C'était une rencontre tout à fait inattendue.
Alors, il faut savoir que l'Élysée Matignon, au départ, dans les années 50, c'était une discothèque-restaurant très en vue dans le Paris mondain, animée par des gens de télé, Pierre-Louis, Marc Danzer, qui était un comédien, et qui amenait les célébrités dans cet endroit. Et Sophie Rochas a repris cet endroit, l'a transformé, et on a fait effectivement un lieu mythique où il y avait des soirées totalement folles. C'est-à-dire que c'était jusqu'à... Vous rencontriez toutes les stars, Sardou, Juvet, tout le monde.
Tout le monde y passait. C'était pas seulement de la chanson, c'était le monde du cinéma, c'était le monde du théâtre, et puis c'était le monde des coulisses du théâtre, du cinéma. Enfin, tout le monde s'y côtoyait. Il y avait un éclectisme, on va dire, absolument extraordinaire.
Alors, le climat est différent de celui de Casablanca où vous avez grandi. Je crois que vous êtes allé à Casablanca après être né à Suresnes parce que c'était mieux pour grandir. Le climat était meilleur, Babette.
Tout à fait. C'est ce que maman avait prévu pour nous. Paris étant un petit peu difficile pour élever ses filles, maman avait préféré le soleil du Maroc. Plus, on va dire... adéquate pour de jeunes enfants.
Oui, c'était l'insouciance, on roulait en Solex sans le moindre problème.
Génial. Moi, je me souviens de ces années de jeunesse, d'adolescente au Maroc, où vraiment on était libre, on allait à l'école en Solex, et puis le week-end, on allait aux plages, sous des tentes caïdales, avec des copains, on surfait, on faisait des feux de bois, enfin, il y avait un côté vraiment très, 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 très simple et absolument extraordinaire.
Ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Non. Et vous allez au lycée français Lyautey.
Exactement. Alors là, je peux vous dire que le lycée Lyautey français, c'était vraiment un endroit extraordinaire. On se rencontrait tous et ça venait de tous les horizons, je veux dire, possibles et inimaginables. On se côtoyait tout le monde. Et encore aujourd'hui, lorsque l'on me rencontre, on me dit, mais t'étais au lycée Lyautey? Je dis, mais bien sûr, quelle question, tout le monde se rencontrait au lycée Lyautey.
Oui, c'était le plus grand établissement d'enseignement français au monde. Et le buste du maréchal Lyautey trônait sur le bureau du proviseur. Et il y avait son portrait peint sur un mur, je crois.
Exactement.
Alors, ça dure quelques années, puis vous revenez en France avec votre père. Je crois qu'il a travaillé dans les tissus, dans l'entreprise de tissus.
Exactement. Papa était le distributeur de toutes les maisons de couture, haute couture, puisque c'était lui qui distribuait les plus grands tissus des soyeux lyonnais. Et évidemment, il avait côtoyé tout ce monde-là, évidemment. Il a connu M. Dior, M. Balmain, c'est la grande époque de la haute couture, avec toutes ces personnes.
Et puis... il vous a donné l'amour des livres, Babette.
Ah oui, mon papa avait... c'est un fervent admirateur des livres, parce que non seulement il en faisait collection, mais c'était toujours des éditions absolument extraordinaires. On avait quand même 5000 livres, et puis c'était pas des éditions n'importe lesquelles. Et les week-ends, mon père cherchait toujours des éditions absolument introuvables, et on arpentait les salles des ventes, que ce soit à Versailles ou à Paris. Donc Drouot et Versailles, je connais bien.
Voilà, il y avait Le Grand Monde, Madame Bovary, La Vagabonde de Colette que vous avez lue. Colette, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle était réveillée par sa mère à 4h du matin pour voir le jour se lever.
Quelle merveille, hein, elle avait bien raison.
C'est le contraire de Lisée Matignon.
Remarquez, on le voyait aussi.
Hein. Mais pas pour
pas
se lever.
Pas de la même manière.
Alors au départ, votre destin, c'est l'université, Babette. L'art, le monde de l'art.
Exactement. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était artistique et c'est vrai que j'avais été un peu briefée par mon père. C'est lui qui m'a initiée à tout ce qui était peinture. Alors j'ai découvert, comme je le disais dans mon livre, que j'ai découvert Klee, j'ai découvert Picabia, j'ai découvert Fujita, j'ai découvert et tant d'autres. Et ça a été pour moi une révélation.
Et puis un jour, on vous aborde dans la rue, je crois que vous êtes hôtesse d'accueil, et on propose d'entrer dans une agence de mannequins.
Tout à fait.
Ça paraît une blague.
Bah écoutez, je m'y attendais absolument pas parce que c'est toujours au détour d'une rue que l'on me propose, qu'on propose ce genre de choses et je crois vraiment, j'y crois pas d'ailleurs, puis on me demande évidemment de passer les tests photos et puis il s'avère que c'est concluant et puis voilà, je rentre dans cette agence dont je parle dans le livre, qui est l'agence Glamour et qui se trouvait aux 120 Champs-Élysées.
Voilà, pas loin de l'Élysée Matignon.
Exactement.
Alors pour vous, à cette époque, Johnny, c'est une affiche, c'est l'affiche du film Le Spécialiste, un film d'ailleurs que Johnny a tourné parce qu'il a sollicité le réalisateur, il voulait faire un western de ce genre.
D'accord. Bah écoutez, l'histoire, je la connais pas très bien. Je me souviens en tous les cas de ce poster qui était sur les murs de la chambre de ma sœur et on y voyait Johnny Hallyday avec des yeux absolument extraordinaires. Et à la suite de ça, elle avait récupéré cette photo qui était c'est un insert dans le Salut les copains.
Voilà.
Voilà. Et nous, on lisait la mode, on suivait les yéyés par le biais de ces journaux de jeunes, on va dire.
Oui, mais il y a aussi un disque qui a mal fini, c'est celui-ci.
Ah oui, ma maman, vous savez, elle était très catholique, espagnole, donc on plaisantait pas avec la religion, donc Jésus-Christ n'étant pas, et puis il a fini à la poubelle.
C'est votre mère qui a jeté le disque.
Ah oui, elle l'a
cassé. Vous savez que cette chanson de Johnny, c'est Philippe Lavreau qui l'a écrite dans un avion, entre New York et Paris, parce qu'il avait vu des hippies. Il l'a proposé à Eddie Vartan qui a dit Johnny la chantera, ils ont failli être excommuniés tous les deux.
À ce point, je ne savais pas.
Ah, c'était scandale, ça a fait scandale.
Je peux bien le croire.
Alors, j'en reviens à Johnny que vous croisez donc à l'Élysée Matignon. Il vous dit bonsoir, comme ça. Il vous a offert une griffe de lion le premier soir, Babette.
Oui, écoutez, on n'a pas parlé longtemps. On a parlé peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Alors évidemment, avec le bruit ambiant, c'était rapproché de mon oreille. Hein. Alors, vous dire exactement les mots, je ne pourrais pas. Mais en tous les cas, il a été vraiment tellement gentil, tellement poli, tellement adorable, tellement gentleman, que j'en suis restée absolument... comment dit-on ?
Baba,
on peut le dire. Et là-dessus... Pourquoi me dit-il, écoute, tiens, voilà, j'ai ramené une petite griffe de lion, ça me fait plaisir de te l'offrir. Écoutez, j'ai dit, c'est vachement gentil de quelqu'un que je connaissais depuis 15 minutes. J'ai trouvé ça plutôt généreux de sa part.
Et puis il est reparti tranquillement.
Et puis chacun est parti après vaquer à ses occupations, de parler aux uns, aux autres, d'écouter de la musique, d'aller danser. Enfin moi, en tous les cas, je me suis souvenu d'avoir été danser, oui, bien sûr, tout de suite.
Mais il est reparti.
Et puis on est reparti chacun de son côté.
Sans imaginer un jour que vous alliez vous retrouver.
Et ben voilà. Mais alors après, quand on va à l'Élysée Matignon, on y va, parce qu'on retrouve nos habitudes, nos copains, et on y va toujours avec grand plaisir. Et puis il y a toujours une personnalité qui passe. Et puis, à force, ben ça devient des copains.
Voilà. Ben, ça a un peu changé ensuite. On en parle avec une autre date, le 27 avril 1980. A tout de suite sur Sud Radio avec Babette.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Babette Etienne, mon invitée, qui publie Je me souviens de nous, cher Perry Collins, votre histoire avec Johnny Hallyday. Et une date importante dans cette histoire, c'est le 27 avril 1980, où vous êtes réveillée à l'aube chez vous, Babette.
Alors écoutez, oui, c'était pas chez moi, je faisais des photos, je me souviens, pour un calendrier japonais. Et j'étais donc à Nice pendant quelques jours, pour faire ce calendrier, et je suis réveillée à 7h du matin à l'hôtel, où on me dit il faut absolument que tu joignes Johnny, il te cherche partout, c'est très urgent. Donc je prends ça un petit peu à la légère, en disant qu'il n'y a pas vraiment d'urgence, qu'est-ce qui ne va pas, je pense qu'il doit peut-être se passer quelque chose de grave. Et là on se dit non, appelle-le tout de suite, il attend ton appel, et je l'appelle donc là-dessus, un peu embêtée, parce que je dis c'est quoi encore cette histoire, et là je suis attendue vraiment comme le Messie, c'est le cas de le dire, hein. On me dit surtout ne quittez pas, il arrive tout de suite, et là j'ai Johnny au téléphone, comme si je l'avais quitté la veille, mais vraiment j'ai été un peu étonnée, parce que je me suis demandé s'il était malade, je me suis demandé si c'était grave, et là il me donne rendez-vous, manu militari.
Oui.
Sauf que c'est pas possible. Je suis à Nice et il me dit mais qu'est-ce que tu fous à Nice? Ça fait des mois que je te cherche. Et c'est vrai qu'à l'époque il y avait pas de portable. Donc quand on disparaissait. Après.
Alors, il faut savoir qu'à l'époque il quitte Sylvie. Officiellement, il y a eu des hauts et des bas. Le pire, ça a été en 67, lorsqu'il a tenté de se suicider après l'enregistrement de cette chanson.
Noir, c'est noir.
On comprend plein de choses après.
Ouais, quand on écoute cette chanson, Sylvie voulait le divorce, il avale ce jour-là des barbituriques, il se taille les veines, il était attendu à la fête de l'humanité. Tiki Ogado, comédien qui était son secrétaire, vient le chercher, le trouve comme ça, on l'a amené à l'hôpital, mais comme les fans étaient devant la porte, eh ben, il a fallu le transporter à l'hôpital dans le coffre de la voiture. Mmh. Il s'en est sorti par miracle. Donc, quand il vous appelle, ça va pas. Il vous cherche et il vous dit.
Il me cherche et quand on me dit que c'est urgent, je pense qu'il est peut-être malade. Je pense que c'est grave. Je pense et c'est plutôt amical. Donc je l'appelle et là, me demandant absolument de rentrer, je lui dis simplement que c'est pas possible et que j'ai pas fini de travailler et que ça ne saurait tarder, mais qu'il fallait quand même qu'il attende 2-3 jours, quoi.
Alors il attend 2-3 jours. Vous arrivez à Roissy et là vous êtes carrément kidnappé.
Ah ben là je suis kidnappé. Là, on peut dire que ça a été un tourbillon où je n'ai pas compris moi-même ce qui se passait, puisque son secrétaire vient vers moi.
Alain
me récupère ma valise et il me dit vite, l'avion va décoller, on t'attend pour partir à Londres. Johnny est déjà au Bourget, il faut vite y aller. Et là, je ne comprends pas. Alors franchement, je vais vous dire, j'ai réfléchi un court instant, j'avais 1000 choses à faire, j'avais longtemps que je n'étais pas à Paris, puis je me suis dit, bon bah écoutez, tant pis, hein, allons-y, peut-être que le week-end va être beau, après tout je vais visiter Londres.
Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a eu une première rencontre avec Johnny un soir à l'Élysée Matignon. Quand vous sortiez, il était dans sa Mercedes tout seul et il vous a raccompagné.
Exactement. Il m'a raccompagné un soir en sortant de l'Élysée Matignon. J'attendais mon taxi et alors évidemment, comme je vous l'ai dit, on était devenus vraiment un copain et c'était un petit peu normal qu'il me demande s'il voulait pas me déposer. C'était sur son chemin. Il habitait Villa Montmorency. Moi, j'habitais pas loin de la Porte d'Auteuil. Donc c'était vraiment sur son chemin. Il m'a déposé. On a parlé un petit peu de choses, on va dire, pas très intéressantes, mais il m'a raconté sa tournée, il m'a raconté qu'il était fatigué, il m'a raconté... Et puis, il m'a parlé beaucoup de lui, et je l'ai réconforté, on va dire, en disant, mais t'inquiète pas, tout va aller bien, tu verras, ça va être encore un grand succès, et j'ai toujours été dans ce sens avec lui.
Bien sûr. Et à cette époque, la chanson de Johnny qu'on entend à la radio, c'est celle-ci.
Oh, ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule.
Dans une chanson, on a dit que le texte était vraiment gonflé et ne pouvait être interprété que par Johnny ou à la rigueur par Jean Gabin.
Ouais, je crois que c'est vrai que c'est assez similaire les deux. Grande gueule.
Alors, ce qui est étonnant, justement, c'est que derrière cette gueule, vous avez découvert, Babette, un Johnny timide, fragile.
Complètement. Johnny était quelqu'un de très réservé, de timide, c'était quelqu'un de très, comment dire, sensible. C'était vraiment un hyper sensible, Johnny. Et de ce côté-là, je crois que j'avais plus ou moins cerné le personnage, oui.
Oui, et moi je me souviens de l'avoir interviewé plusieurs fois, il parlait normalement, mais après, quand le micro était coupé, il pouvait parler pendant une demi-heure.
Complètement. Parce qu'il avait toujours un petit peu cette réserve. C'est ce qui le caractérisait énormément. Il n'aimait pas... c'était quelqu'un qui n'était pas, médisant, Johnny. Au contraire, il aimait toujours les gens.
Oui, et d'ailleurs, il n'a vécu que pour l'amour.
Ah, complètement. C'était un hyper-sensible et quelqu'un qui n'a vécu que pour ça, exactement.
Alors, Babette, vous vous retrouvez donc à Londres, contrainte et forcée,
oui.
Au Dorchester Hotel. Hôtel d'ailleurs où a vécu le général Eisenhower pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il vous offre son lit, carrément.
Exactement. Et on arrive dans une grande suite. Alors moi, je trouve que là, les choses vont un peu trop vite. À mon goût, je me dis, c'est plus possible. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus, j'ai quand même que 22 ans et je suis très très embêtée, mais encore une fois, Johnny a agi avec une classe folle, gentleman, m'a dit, mais tu ne dors pas là, au contraire, tu prends ma chambre et puis moi je dormirai dans le salon. Ah. Écoutez, merci beaucoup Johnny, ça a été vraiment très gentil de sa part.
Et puis ensuite, il vous a fait découvrir Londres.
Complètement, nous avons été dans tous les endroits mythiques de Londres, en passant par Abbey Road et tous les autres endroits absolument extraordinaires qui avaient aussi compté dans la musique, on va dire, rock. Et puis à la suite de ça, Johnny ne voulait plus rentrer à Paris.
Voilà. Alors, Abbey Road, il faut savoir qu'au départ, on connaît la pochette, mais les Beatles envisageaient d'appeler le disque Everest et de réaliser la pochette au pied de l'Himalaya.
On est loin
de ce qui s'est passé. Et comme il y avait beaucoup de circulation, il y a eu 6 photos, pas plus. Il y en a une qui a été choisie, c'était la 5e.
Exact.
Alors, en même temps, donc, dans ce voyage à Londres, vous rencontrez Lee Hallyday.
Complètement. Alors, je découvre Lee Hallyday et je suis un peu étonnée. Pourquoi s'appelle-t-il Lee Hallyday et Johnny, pourquoi s'appelle-t-il Jean-Philippe Smith? Alors moi, je découvre un peu, je tombe un peu. Et puis on m'explique l'histoire de sa cousine, de son enfance, où Johnny, finalement, suit Lee avec sa cousine, qui l'élève. Et puis les voyages qu'ils font un peu à travers l'Europe. Et c'est là que je comprends un peu pourquoi Johnny est devenu Hallyday, quelque part. Par rapport à ça.
Bien sûr, et il y a une chose qu'on sait peu, c'est la façon dont ils sont connus tous les deux. En fait, il vivait chez sa mère, Johnny, et à côté, il y avait Lee. Et son chauffe-eau a explosé parce qu'il a ouvert le robinet à gaz et craqué une allumette.
Mais
et,
non.
Si, et Johnny l'a aidé. Dans la chambre voisine, l'a aidé. Dans tout ça, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Ah bon, alors moi, j'ai pas du tout cette version d'histoire. Moi, je pensais que c'était le mari de sa cousine.
Oui.
Ah, d'accord.
Oui, mais en même et temps, la rencontre, c'est cette explosion.
D'accord.
Voilà. Alors, effectivement, vous dites, vous êtes à Londres, il doit enregistrer, il ne le fait pas. Ça,
non.
C'est Johnny.
Il ne le fait pas du tout. Il a la tête ailleurs. Il a la tête ailleurs et il a tellement la tête ailleurs qu'il ne veut absolument pas travailler. Et il décide de partir en Écosse.
Avec vous.
Ah, voilà. Tu connais l'Écosse? Je dis, non, je ne connais pas. Il m'a dit, écoute, allons-y. Et nous voilà partis pour l'Écosse où... Nous visitons pendant 5 jours et là, les choses se concrétisent, on va dire. Parce que c'est de là que finalement notre idylle commence.
Voilà. Et 15 jours après, vous allez vivre ensemble.
Exactement.
C'est
ça a
fou,
été
ça.
Rapide. Ça a été un vrai tourbillon.
Et comment on vit ça?
Écoutez, je crois qu'on ne se pose pas de questions. On vit ce tourbillon comme quelque chose d'extraordinaire. Il y a carpe diem, on va dire. Alors j'ai 22 ans et je me dis, mais c'est quoi cette histoire qui commence? Elle est quand même extraordinaire. Elle nous renverse tous les deux. Et allez hop.
Et on va continuer à en parler avec une autre date, le 24 mai 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Babette.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Babette Etienne. Le livre « Je me souviens de nous » chez HarperCollins. Et une date dans cette histoire d'amour avec Johnny, 24 mai 1980. Ça vous dit quelque chose?
Tout à fait, nous voilà partis pour Saint-Tropez, ouais. Où le mariage d'Eddie Mitchell est imminent.
Et, avec Muriel, sa seconde femme.
Avec Muriel, exactement. Et nous voilà arrivés chez Eddie Barclay. Donc, Eddie Barclay, qui était un grand producteur de musique. Et il y avait une énorme propriété à Saint-Tropez, où d'ailleurs, il y avait chaque année une soirée blanche, où chacun se précipitait pour pouvoir y participer, parce que c'était incroyable, ces soirées blanches.
Il n'y avait plus un costume blanc dans Paris à vendre, d'ailleurs. Effectivement, il y avait le tout Paris. Cette propriété, il l'avait achetée après avoir vendu sa maison de disques, et c'est devenu un lieu mythique.
Un haut lieu de rencontre de tout le monde de la musique.
Voilà. Et d'ailleurs, Johnny y venait régulièrement. Je me souviens de déjeuner qu'on faisait sur les hauteurs.
Ah, c'était magnifique.
Et il avait accepté un déjeuner où Henri Salvador fêtait ses 65 ans avec un déjeuner à l'envers.
On avait commencé par le dessert. Je m'en souviens très très bien de ça. C'est incroyable. C'est incroyable que vous vous souveniez de ça, Jacques.
J'étais là, donc.
Mais oui, c'était fou. On en a parlé ce déjeuner à l'envers.
Alors, j'en reviens donc à Saint-Tropez. Vous arrivez donc au mariage d'Eddie. Et vous êtes au bras de Johnny, et là, ça devient officiel.
Ah ben oui, là, ça devient officiel, on se demande qui je suis, qui c'est cette fille, mais qui c'est cette fille? Alors évidemment, je suis devenue la septième merveille du monde, puisque j'ai été photographiée en long, en large, en travers. Je me demandais un peu ce qui se passait, parce que je me disais, c'est quand même incroyable, j'ai quand même un goût prononcé de la discrétion, je comprenais pas pourquoi on me mitraillait autant, je veux dire, et puis voilà, et puis, écoutez, j'ai été la nouvelle fiancée de Johnny Hallyday à ce moment-là.
Oui, mais résultat, on vous a donné un garde du corps parce que les paparazzi vous ont pas lâché. Les photographes, vous connaissiez, les paparazzi, non.
Je connaissais pas du tout. Et Johnny a eu très peur à un moment parce que, franchement, ça sortait d'un peu partout. Ils étaient toujours en embuscade et je pouvais avoir un accident. Et Johnny me disait, non, écoute, pour te protéger, parce que je connais un peu ce monde, je préfère que tu aies quelqu'un avec toi. Et Johnny m'avait vraiment mis quelqu'un à côté. Ça m'avait fait bizarre, d'ailleurs, de pas pouvoir faire un pas d'une grande liberté, mais bon, j'avais accepté.
Oui, les paparazzis étaient partout. Il y a un comédien, Jim Carrey, qui a trouvé une solution. Et un jour, il aperçoit 7 paparazzis cachés, il sort, il leur a tous fait un câlin. Et ils ont été tellement étonnés qu'ils lui ont fichu la paix. Alors, votre histoire d'amour, elle a commencé 15 jours après, dans un appartement de l'avenue Foch, car quand Johnny voulait quelque chose, c'était tout de suite, Babette.
Tout de suite. Mais en plus de ça, il voulait absolument que je m'installe, mais vraiment très très vite avec lui. Donc du coup, il a fallu que je libère, moi, mon appartement, que je balance tout, comme il disait. Il disait, balance tout, on s'en fout, on n'a rien besoin de rien. C'est les meublés, t'as plus qu'à poser tes affaires. Et nous sommes venus, chacun, avec nos petites affaires, on va dire. Johnny avec ses, je sais pas combien, centaines de vidéos, parce qu'ils ne s'en séparaient pas. Et puis moi, j'ai récupéré ce que je pouvais. Et puis nous sommes installés tout de suite ensemble dans cette grande maison, oui.
Parce qu'il ne voulait pas être seul.
Ah non, mais Johnny avait quand même une peur primaire de l'abandon.
Alors je pense qu'il a été abandonné.
Voilà. Donc je pense qu'il y avait une résonance à tout ça. Il a été très très malheureux et il souffrait énormément de la solitude.
Donc ça veut dire dans cet appartement de l'avenue Foch, c'est cinéma tous les soirs, toutes les nuits.
Ah oui, d'autant qu'il y a un énorme écran. Alors aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très banal, mais à l'époque il y avait cet écran qui descendait du plafond, c'était génial. Et puis on regardait des films. Tous les soirs, mais des films que je n'avais jamais vus et ma culture cinématographique s'est beaucoup améliorée à partir de ce moment-là, oui.
L'un de ces films cultes que vous avez vu plusieurs fois, je crois que c'est La Nuit du Chasseur.
Oh là là! Alors, ça commençait à me faire un peu peur. Bon, ça faisait pas tellement peur, mais ça me faisait un peu peur. Et Johnny disait, mais tu rigoles, mais c'est rien. T'as jamais vu un film d'horreur? Je vais t'en montrer. Et puis là, ça a été carrément l'horreur. J'ai plus jamais vu un film d'horreur avec lui.
C'est un film de Charles Laughton. C'est le seul film qu'il ait réalisé. Enfin, c'est ce qu'on dit. Parce qu'en fait, quand il a joué l'inspecteur Maigret quelques temps plus tôt à Paris, dans L'Homme de la Tour Eiffel, il a remplacé le réalisateur. Mais c'est pas crédité.
D'accord.
Voilà, ça c'est. Je pense que Johnny savait ce genre de choses.
Oui, sûrement.
Alors, vous êtes tellement collés l'un à l'autre qu'un jour, vous devez partir à la gare de Lyon. et vous accompagne.
Oh là là, je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment-là. Ça a été épique, je vous jure que je ne pouvais pas y croire. Mais vous savez, en même temps, vous êtes avec Johnny Hallyday, mais bon, quelque part, on ne se rend pas compte qu'on est avec Johnny Hallyday. Quelque part, on est quand même avec un homme qui est charismatique, qui est beau, qui est gentleman, qui est attentionné, qui a tellement de qualités qu'on ne se rend pas compte qu'il a une aura. Et là, je dis à Johnny, je dis, écoute, je dois me rendre en Suisse pour faire des photos. Je vais prendre les transports en commun, puisque j'étais toujours comme ça. Et il m'a dit, non, je t'accompagne à la gare de Lyon. Je ne connais pas. Alors, pour moi, ça m'a semblé un peu bizarre qu'ils ne connaissent pas la gare de Lyon. Mais bon, c'était vraiment... je ne m'en suis pas posé de questions plus que ça. Et j'ai dit, allons-y. Et puis, il m'a accompagnée. Et on s'est garé sous l'horloge. Et puis, j'ai pris mes petites affaires. Et en allant sur le quai, y avait de plus en plus de gens qui regardaient Johnny, qui se retournaient sur lui en disant, c'est pas possible que ce soit lui. Et puis, moi, je regardais un petit peu les gens. Et puis, petit à petit, c'est devenu vraiment un flot de... c'était une marée humaine, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi tout ça? Il ne connaissait pas la gare de Lyon, mais c'était un truc incroyable.
Le train a failli ne pas partir.
Ah non, mais l'émeute qu'il y avait eu ce jour-là, je vous promets, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que du coup, Johnny et moi, on n'a pas pu vraiment s'embrasser, parce que du coup, il avait été accaparé par tous ces gens qui m'ont demandé des autographes, et puis je n'ai vu qu'une tête blonde au loin, et je me suis dit, tant pis, dommage.
Il y a eu une autre soirée étonnante, un mariage au Maroc, vous deviez aller pour un copain d'enfant.
Non, c'était à Grenoble, ça. C'était à Grenoble, un copain d'enfance qui se marie. Et là, évidemment, je ne dis pas à Denis de venir, parce que j'ai dit, il va rater la fête. On va tous se monopoliser sur la venue de Johnny plutôt que sur le mariage. Donc, c'était un peu... Johnny n'avait vraiment pas bien pris les choses. Et m'avait dit, écoute, moi, je t'invite au mariage d'un copain à moi, et toi, tu ne m'invites pas au tien. Alors, dans ces cas-là, si je ne viens pas, tu n'y vas pas non plus. Et donc, il est venu.
Et là aussi, c'était la surprise pour le mari, il en parle encore.
Ah bah écoutez, c'est incroyable, parce que là, il n'y a pas très longtemps, ils ont ressorti la photo, quoi. Ils ont ressorti la photo du mariage avec Johnny Hallyday au milieu du couple, à se demander, mais c'est quoi, c'est pas une blague.
C'est un sosie, non, c'était lui.
Non, c'était vraiment lui.
Et puis, il y a un autre moment extraordinaire, et là, on pourrait se dire que Johnny aurait pu faire un excellent journaliste. C'est la soirée de vos 23 ans chez Maxime, si vous voulez.
Écoutez, moi, j'ai vécu un moment féerique ce jour-là. Je peux vous dire que je m'en souviens toute ma vie, et je pense que n'importe qui aurait vécu ce moment, on va dire, de grâce, c'est quelque chose qui est vraiment dans mon cœur et dans mes souvenirs. Oui, c'est Johnny qui m'invite au restaurant. Alors, un restaurant quand même qui n'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Maxime. Alors, on passe devant, mais on n'ose pas y rentrer. On se dit, c'est peut-être quelque chose que personne ne peut accéder. Et puis, voilà. Et puis, il ouvre cette porte extraordinaire. Et là, c'est un monde magique qui s'ouvre à moi. Et on va vers une table. Tout est très, très, très joli. Et puis, avant de m'asseoir, il me dit, attends, on va monter. Tu vas voir, il y a un énorme salon en haut où on peut boire un verre avant de s'installer à table. Ok, je le suis. Et là, tous mes amis sont là. C'est féerique.
Comment il a fait pour retrouver tout le monde?
Écoutez, il s'était bien renseigné. Il avait appelé mon agence de mannequin. Il s'était renseigné auprès d'une de mes amies. Il avait fait une recherche extraordinaire jusqu'à demander même à maman d'être là.
C'est fou.
Extraordinaire.
Alors, une autre soirée d'anniversaire, mais la sienne, c'était le 15 juin 80, dans une discothèque près de la Porte Dauphine, près du Bois de Boulogne, qui s'appelait le Martins, dirigé par Sam Bernett. Et ce soir-là, il y a eu une grande soirée rock. Alors là, il y avait un monde fou. Et Johnny s'est mis au micro à chanter avec Gene Manson, avec Joël du groupe Il était une fois.
Tout le monde était là.
Une soirée incroyable.
Ah, mais c'est vraiment. Et puis je peux vous dire que la scène, c'était pas le palais des sports, hein. C'était 2 mètres carrés. Hein. Mais alors là, franchement, on s'y était cru. Vraiment, c'était digne d'un grand, 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 grand spectacle, tout à fait.
Alors je crois que François Reichenbach a filmé cette soirée, mais comme ses films sont bloqués aujourd'hui, on ne peut pas les voir.
Oui.
François Reichenbach avait toujours sa caméra, sauf un soir, le soir des 31 ans de Michel Sardou. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, pas bête. À l'Élysée Matignon, justement, Johnny est là, ils dînent ensemble, et puis ils remontent un petit peu éméché, voilà, et il y a un orchestre de tango. Donc Johnny dit à ses musiciens, viens-moi ces gens-là. Et Johnny et Sardou ont fait pendant 3 heures à l'Élysée Matignon, ils étaient copains à l'époque, un concert géant.
Oh, ça devait être mémorable, ça.
Ah, ça, c'était unique.
Ah, sûrement.
Parce qu'il aimait comme ça, Johnny, faire des concerts.
Ah, c'était toutes les improvisations avaient toujours beaucoup de, oui, d'intérêt pour lui.
Puis vous aussi, vous avez chanté, mais un peu plus tard, peut-être.
Oui.
Tu t'imagines, nous deux sous l'équateur, en Range Rover avec stéréo et climatiseur.
Bébé reggae.
Alors écoutez, c'est incroyable, et cette chanson est très très recherchée par les grands DJ internationaux aujourd'hui. C'est hallucinant, elle est jouée partout. Alors évidemment, on le recherche, mais c'est devenu vraiment un disque, pas vintage, mais un collector. Ouais. On le trouve nulle part. Alors il y en a qui veulent le ressortir, mais je crois que c'est un peu plus compliqué.
Et cette chanson, c'était une surprise pour Johnny.
Complètement. Il s'y attendait pas. Et puis, puis quand il l'a écouté, il a trouvé ça génial, et puis il m'a toujours encouragé. Et à chaque fois que tout ce que j'ai fait, quand je l'ai fait autour de, près de lui, il m'a toujours encouragé, au contraire.
Et puis vous avez suivi les tournées qui étaient des moments totalement forts, surréalistes, avec le public en transe. Il donnait tout, Johnny.
Tout. Alors je peux vous dire qu'il s'économisait pas. Hein. Il s'économisait pas. Et c'était vraiment, un personnage tellement différent, je veux dire, on le quittait, c'était un personnage réservé, timide, attendrissant, et puis dès qu'il montait sur scène, c'était carrément un autre personnage, quoi. Il enfilait vraiment le rôle du chanteur, hein, et c'était pas n'importe lequel de chanteur.
Ça, le spectacle, je crois, s'appelait L'Ange aux yeux de laser.
Oui.
Et à Grenoble, il était tellement épuisé qu'il est tombé.
Il est tombé dans la fosse. Ah, moi, j'ai eu très très peur ce jour-là, je peux vous dire, parce que vous savez, juste avant, c'est le Black Out. Alors il y a les musicos qui commencent et Johnny rentre, mais je crois qu'il est rentré pas du bon côté et il est tombé dans la fosse. Mais je crois qu'il était surtout épuisé, quoi.
Voilà. Et vous savez qu'un peu de temps avant, on a annoncé que Johnny était mort à l'hôpital franco-musulman des suites d'un cancer de la gorge.
Oh.
Il y a eu une dépêche AFP, au ministère de l'Intérieur un secret défense. En fait, il y avait un SMET qui était mort ce jour-là. Et on a cru que c'était Johnny. Et alors que lui était tout à fait ailleurs, je crois, à Los Angeles.
Oui, non, mais il allait très bien. Mais ceci dit, on l'a condamné plusieurs fois. Hein.
Oui.
Alors franchement, à la fin, c'était devenu un peu dur à entendre. Hein.
Et puis il y avait les fans qui étaient toujours là. Les fans, c'était surréaliste.
Surréaliste, les fans, c'était incroyable. J'ai vécu, moi, des moments qui sont, je veux dire, incroyables, parce que moi, j'ai jamais vraiment été fan dans ma vie. Alors du coup, quand je voyais toutes ces jeunes femmes qui tombaient dans les pommes, et je me disais, c'est trop bête, elles sont venues jusqu'ici, elles ont payé pour voir un spectacle, et puis finalement, elles finissaient dans une civière à être réanimées un peu plus loin.
Voilà.
Et voilà.
C'était Johnny. Et Johnny, on va encore en parler avec votre livre et une autre date, le 2 décembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Babette.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Babette Étienne. Et donc 2 décembre 2020, sortie de Je me souviens de nous, chez Harper Collins, un livre où vous racontez cette histoire d'amour. Pourquoi avoir fait ce livre 40 ans après?
Écoutez, au départ, je ne pensais pas que ça pouvait intéresser
le grand public.
Ouais, le grand public, je pensais pas. Je pensais, comme je vous disais auparavant, c'est vrai que j'ai un goût prononcé de la discrétion. Et du coup, je me disais, bon, bah, ça va pas intéresser les gens, surtout une histoire, je veux dire, bon, peut-être qu'elle est importante parce que c'est Johnny Hallyday. Mais après, je me suis dit, bon, et puis en la racontant comme ça, un peu à droite, à gauche, lors de dîner, on me disait, mais c'est extraordinaire cette histoire. On ne connaît pas Johnny sous cet angle de quelqu'un de romantique, de sensible, de gentleman, de timide, de réservé. Pourquoi tu ne le décris pas? Tu le racontes tellement bien. Et donc là-dessus, bah, j'ai enjambé mes réticences, on va dire, et puis j'ai dit, ok, je vais la partager, au contraire, avec tous ceux qui aiment Johnny. Et
oui,
voilà.
Parce que cette discrétion faisait qu'on vous avait presque oublié, alors que vous êtes la deuxième femme de Johnny.
Ça fait plaisir aussi d'avoir un peu remis, un peu, on va dire, cette belle histoire d'amour au goût du jour, parce que c'est une jolie histoire. Elle a été souvent minimisée et je trouve qu'elle n'avait pas de raison d'être, puisqu'elle a quand même duré 3 ans.
Et pas deux mois, comme certains le disent.
Et pas deux mois. Alors, en plus de ça, j'aime bien aussi remettre les choses un peu à leur place. Je n'ai peut-être pas été mariée longtemps avec Johnny. J'ai été mariée 6 mois, mais en tous les cas, on a vécu 3 ans ensemble, et ça, je tiens à le dire.
C'est bien. Alors, effectivement, quand on voit la collection de livres sur Johnny, en général, c'est fait par des gens qui ne l'ont jamais rencontré.
Souvent, ça se passe comme ça, oui.
C'est curieux, hein ?
C'est très curieux.
Alors que vous, vous avez un témoignage direct, et vous avez raconté ce qu'on peut appeler une passion fusionnelle.
Tout à fait. Ça a été une histoire passionnante et très fusionnelle, avec un homme, franchement... extraordinaire. Je ne peux pas dire, c'était une personne incomparable, Johnny.
Unique.
Unique au monde. Unique. Franchement, unique. Et aujourd'hui, je suis ravie de lui rendre hommage.
Et unique par son charisme, par son talent, par ce qu'il était ?
Ah oui, complètement. Un charisme fou, un talent, je veux dire, inégalable. Et Johnny fait partie de notre patrimoine national, on peut le dire, oui.
Oui, et c'était en même temps un homme possessif pendant ces 3 ans.
Oui, il a été possessif, mais parce que ça a été une passion, on veut dire, portée à son comble. Nous deux, nous étions deux âmes sœurs, et comme deux magnettes, on n'aimait pas se séparer. Alors évidemment, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, on se dispute, et puis bon, bah, il faut croire que je comptais pour Johnny, puisque à chaque fois, il revenait me chercher. Alors, ce qui me fait aussi d'appel, c'est qu'on dit « Ah, ça a duré 2 mois, oui, mais alors ça veut dire que je l'ai rencontré la veille, que le lendemain matin, j'ai été à la mairie mariée, donc non, ça n'a pas été le cas. »
C'est pas le cas. Alors, justement, vous êtes devenu son encre, et à l'époque où le téléphone n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, il vous a fait installer le téléphone dans la voiture pour pouvoir vous joindre à tout moment.
Oui, tout le temps, et ça, c'était vraiment au départ, les premiers téléphones dans la voiture, je peux vous dire que c'était incroyable. Johnny m'appelait tout le temps, mais même quand j'allais travailler, je partais en voyage, c'était oui, c'était récurrent, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Le premier à avoir eu le téléphone dans la voiture, c'était Pierre Lazareff, le directeur de France Soir. Et Francis Blanche, qui voulait le copier, prend un téléphone, passe un coup de fil à Lazareff depuis sa voiture. Et Lazareff lui répond, d'une seconde, je suis sur la seconde ligne.
J'adore.
C'est authentique. Alors, il y avait aussi les moments où il débranchait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Johnny s'enfermait, on ne le sait pas assez, et ne parlait à personne, même pas à vous, Babette.
Non, mais parce que Johnny avait aussi cette pudeur. Vous savez, comme les gens... voilà, réservé, il avait cette pudeur, et quand il y avait des contrariétés qui étaient plus fortes que lui, et ben il préférait ne pas en parler, et c'était sa façon à lui de aussi de vous protéger.
Oui, mais quand il avait le blues, il y avait rien à faire.
Ah non, quand il avait le blues, il fallait le laisser. Et puis il fallait le laisser tranquille, le laisser reprendre un petit peu confiance, comprendre ce qui se passait, et puis une fois que c'était terminé, je veux dire, il revenait normal.
Et ce qui se passait, c'était parfois un détail, on ne sait même pas.
Ah oui, c'était une petite contrariété qui l'avait peut-être perturbé, bien sûr, mais souvent c'était pas grand-chose. Hein. Et puis après, il y a eu des choses un peu plus importantes pourtant.
Alors, il y a eu un moment très difficile, vous avez fait beaucoup de voyages très romantiques avec lui, et un jour, il décide de vous emmener à Tahiti, Babette, oui. Et là, ça a été le cauchemar.
Oh là là, quelle horreur ce voyage, quand j'y pense, alors que c'était bien parti, mais bon, j'ai trouvé que c'était vraiment trop loin, quoi. 24 heures pour arriver au bout du bout du bout du bout du monde, on n'en pouvait plus de l'avion, quoi. C'était sans fin. Et évidemment, vous savez, à ce moment-là, on apprend le décès de Joe Dassin.
Qui est mort à Tahiti, donc
exactement.
C'est en 80.
Juste au moment où nous arrivons à Tahiti, nous allons d'ailleurs visiter son île. Et Johnny est vraiment défait. Je veux dire, c'était un de ses amis qu'il aimait beaucoup. Et d'avoir appris son décès, il a vraiment terriblement peiné. Et là, Johnny, je crois qu'il a envie de changer les idées, de se voir et de faire des choses différentes, et puis s'enivrer, oui, différemment. Alors, parce que c'est vrai, au bout d'un moment, le soleil et la mer, c'est un peu rébarbatif, et puis Johnny, voyant toutes ces vaïnées en petit bateau derrière notre voilier, à faire des signes et tout ça, Johnny a dit, on va s'arrêter, on va les faire monter, on va passer un bon moment, ça va être sympa et tout ça. Et puis alors là, moi, j'ai pas très bien compris, parce que Johnny, bon, qu'on s'arrête et qu'on les fasse monter et qu'on rigole, c'est très bien, mais qu'après, nuit et jour, elle soit tout le temps avec nous, c'était devenu invivable. Et là, j'ai dit à Johnny, non, c'est plus possible. Écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je reste pas, je rentre à Paris.
Vous êtes entré à Paris. Alors, d'après mes renseignements, il aurait eu une aventure avec la fille d'un chef de village.
Voilà. Ah bah vous voyez, alors il avait des raisons d'être resté à ce moment-là plus longtemps. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que Johnny disait après, oh bah tu sais, je pense que c'est inexportable, hein, les filles des îles, hein, c'est pas possible. Hein. Alors bon, bah il est revenu comme si rien ne s'était passé.
Et plusieurs fois, il vous a fait le coup. Et donc, je crois d'ailleurs que ça a inspiré une chanson un jour à Hervé Villard.
Mais dis-moi, Babette, à quoi tu joues ? En laissant se dessiner.
Pas pleurer de Hervé Villard et Babette, c'est vous.
C'est moi, exactement. J'étais tellement malheureuse à l'Élysée Matignon. J'étais retrouver des amis. Et Hervé m'a vue vraiment pas bien. Je pleurais. Et puis c'est de là qu'est partie cette chanson. Ça l'a inspirée.
Voilà. Alors il faut savoir que Johnny, bon, il y a eu des hauts, des bas, des départs, des retours. Et puis un soir, il vous invite au pavillon de Pantin le 23 mars 1981. Le spectacle est formidable. Et puis après, vous allez en coulisses, Babette.
Je vais en coulisses. Et là, je m'y attends. Mais alors, pas du tout. Et là, Johnny me prend tellement fort dans ses bras et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et tout le monde est là. Il y avait Belmondo qui était là. Il y avait Mort Schumann. Il y avait Eddie, Mitchell, Muriel. Tout le monde était là. C'était tellement joli. Et là, Johnny m'offre un solitaire absolument éblouissant de beauté. Et il me dit, voilà, je me fiance avec toi. Et là, franchement, je n'y crois pas mes yeux.
Et c'est vrai, à tel point que vous allez partir en voyage de fiançailles, je crois, aux Seychelles.
Exactement, nous partons en voyage de fiançailles aux Seychelles. Et là, nous vivons une idylle absolument sublime, à l'antipode de notre voyage à Tahiti. Une très, 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 très belle, comment dit-on, échappée, on va dire. Et là, Johnny veut absolument une petite fille. Et il en parle. Et il dit, j'aimerais bien avoir une petite fille, j'aimerais bien avoir une petite fille avec toi. Et d'ailleurs, il l'écrit à ma mère plus tard, dans une correspondance qui est dans le livre, d'ailleurs. Et nous passons à vraiment une semaine paradisiaque.
Voilà. Puis après, vous revenez, il repart plusieurs fois. Par la presse, vous apprenez qu'il a d'autres fiancés.
C'était Johnny en même temps. Hein. On savait que Johnny n'était pas monogame non plus. Hein.
Oui, mais en même temps, c'est une méthode qu'il avait appris de Piaf pour faire parler de lui quelquefois.
Exactement.
Piaf faisait la même chose. Elle appelait les journaux en disant, voilà, j'ai tel scoop pour vous, mon mariage avec Théo Sarapo.
Exactement. Parce que il faut se dire aussi qu'à cette époque, le succès de Johnny n'était pas trop au rendez-vous. Elle était un peu dans le creux de la vague. C'était un moyen... C'était sa façon à lui de dire « Ne m'oubliez pas, je suis là, pensez à moi ».
Voilà. Alors la demande en mariage, elle se passe aussi de façon insolite, c'est presque un retour aux sources, Babette.
Ah ben complètement, parce que moi, après toutes ces incartades, j'en ai un peu ras-le-bol, d'autant que j'ai mon petit appartement pour me ressourcer, et là, je décide carrément de mettre un terme à notre histoire, parce que là, je suis arrivée au bout du bout, j'ai accepté toutes ces imperfections, mais là, je me suis dit, jusqu'où je vais les accepter? En plus, je suis jeune quand même, j'ai 23 ou 24 ans, et je me dis, c'est plus possible. Et là, je décide de quitter Paris pour un petit moment. Je m'enfuis aux États-Unis chez une de mes amies. Et puis, un mois ou un mois et demi passe plus tard, j'ai coupé les ponts. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de téléphone portable, je le rappelle à cette époque. Hein. Et Johnny continue à me chercher partout, partout, partout. Et là, je dis, c'est pas possible. Je vais à l'Élysée Matignon, déjeuner, dîner plutôt, avec mes amis. Et qui arrive en embuscade encore, Johnny. Et là, il est tellement content de me voir, il est tellement content de m'avoir retrouvée, qu'il me demande en mariage. C'est un truc incroyable.
C'est fou. Et c'est à cette époque-là, il a sorti une chanson qui est enregistrée et le disque sort 4 jours avant votre mariage.
Je suis pas mort de chagrin. Comment j'ai fait, j'en sais
pas facile, qui est sorti juste avant ce mariage qui devait avoir lieu à Neuilly, qui devait avoir lieu à Saint-Tropez, qui a finalement eu lieu à Los Angeles.
Il a eu lieu à Los Angeles, bah vous savez pourquoi ? Parce que, évidemment, si lui faisant son grand retour au palais des congrès, c'était tout à fait normal que l'on aille se marier plus loin.
Et ça a été une journée folle, je crois que c'est vous qui avez tout organisé.
Ah, j'ai tout organisé. Alors, du haut de mes 24 ans, je ne savais absolument pas comment il fallait organiser un banquet de mariage. recherches. Et puis, grâce à mes amis absolument extraordinaires, on m'a aidé à commander ce gâteau magnifique, et puis à ces petits fours, ce champagne. Enfin, tout était super bien organisé. Et puis, on était en petit comité, mais c'était très sympa.
Oui, il y avait une tension, et Johnny a fait semblant d'avoir oublié les alliances pour faire rire tout le monde.
Ben oui, parce que j'ai appris il n'y a pas très très longtemps que Johnny avait fait le pied de grue la veille devant chez Cartier, parce qu'il était arrivé à 7h du soir, que ça avait fermé, que le lendemain il devait prendre l'avion, et il a dormi dans la voiture pour être le premier servi le lendemain devant chez Cartier. J'ai trouvé cette histoire absolument extraordinaire.
Une autre histoire extraordinaire, mais qui vous est arrivée, c'est que vous avez tourné dans un film. Alors, le Gendarme de Saint-Tropez, c'est un film culte, et vous avez débuté à l'écran avec De Funès et Galabru dans le dernier film du Gendarme de Saint-Tropez.
Exactement, ce fut le dernier film de Louis de Funès.
Le Gendarme et les Gendarmettes.
Et les Gendarmettes, tout à fait, qu'on a vu et revu pendant le confinement. Je me suis délectée à le revoir à chaque fois. Je le revois avec autant de plaisir que quand je l'ai tourné, parce que je rigole toujours autant. C'est toujours un bonheur de voir De Funès.
Et d'ailleurs, il y a eu un dîner avec De Funès, Galabru, vous et Johnny, qui est mémorable.
Ah, mémorable. C'est vraiment dommage, encore une fois, que je n'ai pas, qu'il n'y ait pas eu de téléphone portable pour pouvoir, on va dire, mémoriser cette scène. Génial.
Parce vous faisiez des numéros classiques tous les deux.
Ah non, mais attendez, dîner avec Galabru et De Funès, c'était pas un dîner, c'était une pièce de théâtre. Je veux dire, chacun parlant en alexandrin, c'est passe-moi le sel en alexandrin et donne-moi le sel et donne-moi le poivre et passe-moi le vin. Enfin, je veux dire, ça a été un moment absolument délicieux quand je m'en souviens, oui.
Alors, le mariage a duré 6 mois, votre vie avec Johnny 3 ans, mais les liens n'ont jamais été rompus.
Jamais. Nous avions refait nos vies, chacun de notre côté, nous avions eu nos enfants, et puis j'habitais à Saint-Germain-des-Prés, près d'une discothèque que vous avez peut-être connue, qui s'appelait le King Club.
Oui.
Et là, le propriétaire était un ami de Johnny, c'est le père Albert Maski. Et en me promenant dans la rue, cette petite rue, Albert me voit et me dit « Mais Babette, qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, j'ai dit « Écoute, j'habite ici, voilà, j'ai un petit garçon. Mais c'est formidable, mais Johnny est au courant. » J'ai dit « Je ne sais pas, ça va. » Il me dit « Ben, écoute, il vient très très souvent me voir. Ben, je vais lui dire que tu habites là. » Et lorsque Johnny est arrivé, c'était vraiment quelques jours après, hein, ça n'a pas vraiment attendu longtemps. Hein, et Johnny tout de suite m'a dit « Babette, je peux passer ?» Ben, je dis « Ben oui, la porte est à côté. » Il est venu et puis c'est là qu'on reparlait de nos amours passés et de nos... Ben de nos beaux souvenirs, finalement.
Des souvenirs qui sont dans ce livre, Je me souviens de nous, chez Harper Collins. Et vous racontez très bien cette histoire où l'on découvre un autre Johnny que celui que nous connaissons. Merci d'avoir écrit, Babette.
À vous, Jacques, merci.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et restez surtout fidèles à l'écoute de Sud Radio.